Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est la première fois dans l'histoire du football qu'un tel événement a lieu, ou plutôt une série de petits faits qui font sens. Comme si les stades de football étaient devenus des lieux où s'expriment et se règlent, en l'occurrence, les conflits qui minent nos sociétés. Ainsi, le 16 août, l'arbitre d'un match Nancy-Metz a pris la décision de le suspendre à la 27e minute lorsque les supporters du club de Nancy ont crié « Les Messins sont des PD ». La suspension n'a duré que quelques minutes, mais l'arbitre Mehdi Mortari a été ensuite félicité par la ministre des Sports et par Marlène Schiappa. Samedi 24 août, c'est le match de Ligue 1 entre Brest et Reims qui a également été interrompu à la 53e minute de jeu à cause de propos homophobes, en l'espèce des chants faisant allusion à la sodomie entonnée par les supporters dans les tribunes. Dimanche 25 août, le lendemain, l'arbitre d'un match Monaco-Nîmes a aussi menacé d'arrêter ce match de Ligue 1 également, après avoir entendu le même genre de chant hostile. Depuis le printemps dernier, explique Le Monde, le règlement de la Ligue a été modifié pour que les matchs puissent être suspendus en cas d'insulte. Cette décision faisait suite à de nombreux dérapages, comme le 12 avril, lors d'une rencontre entre Dijon et Amiens, qui fut arrêtée quelques minutes à l'initiative du capitaine Despicard, cible lui-même d'insultes racistes. L'arbitre, cette fois, n'était intervenu que pour le soutenir, raconte le JDD. Le club de Dijon a été ensuite sanctionné d'un point de pénalité avec sursis et le supporter ayant proféré les insultes a été mis en examen après que le club a porté plainte. Depuis, c'est la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui est elle-même la cible de propos misogynes et sexistes dans les tribunes, mais un pas a tout de même été franchi dans la condamnation de ces conduites inacceptables. Le sport comme terrain d'observation des tensions qui traversent l'Hexagone, c'est ce que nous tentons aujourd'hui de raconter avec trois histoires de discrimination dans le sport par Karine Lelouette.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Charlotte Girard-Fabre, j'ai 37 ans et je viens d'un petit village qui s'appelle Bourgueil. J'ai été élevée par ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère était une sage-femme MLF d'après-guerre et ma mère une artiste. J'étais ce qu'on appelle un garçon manqué, ou plutôt une fille réussie. Très très active, les cheveux courts, toujours des joggings ou des jeans parce que c'est beaucoup plus pratique pour courir et grimper aux arbres. Donc j'étais une petite fille hyper dynamique. C'est le seul moyen, le sport, qu'on a trouvé pour essayer de me canaliser un peu. Donc les premières classes sportives, c'était à 4 ans et c'était de la natation. Après, je me suis mise au judo. C'est comme ça que j'ai découvert le hockey. Le dojo étant à côté de la patinoire à Bourgueil dans mon petit village. Tout simplement, pendant les pauses au judo, on allait voir les grands baraqués dans le froid qui se tapaient contre les balustrades. C'était génial, ça faisait beaucoup de bruit. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'en faire. Je suis arrivée dans mon club à 9 ans. La mixité était interdite. Les filles n'avaient pas le droit de monter sur la glace avec les garçons. Donc j'ai dû attendre 3 mois une dérogation fédérale pour pouvoir monter sur la glace avec mes copains. Et ben, pendant ces 3 mois, j'ai appris à m'équiper, déjà, parce que okay, c'est un peu compliqué. Et puis je venais régulièrement aux entraînements pour voir comment ça se passait, mais j'avais pas le droit de monter sur la glace. C'est là où j'ai appris à mettre des portes-jartelles et des bas. Ça fait partie de l'équipement du hockeyeur, et ce sont des garçons qui m'ont appris à mettre des portes-jartelles et des bas. Souvent, très très souvent, on m'a renvoyé mon image, c'est-à-dire mon image de garçon manqué, avec les cheveux courts et mes pantalons, en disant bah, « de toute façon, vu que t'as les cheveux courts, vu que tu fais des sports de garçon, t'es lesbienne ». Mais non. Et puis à 12 ans, ma sexualité, je n'y avais pas encore forcément pensé, ou je ne l'avais pas définie en ces mots-là. On disait même à ma mère « tu te rends compte, tu n'auras pas de petits enfants parce qu'elle sera lesbienne ». Sur la carrière sportive, en tout cas à partir de 14 ans, on m'a encore dit que j'avais plus le droit de jouer en mixité et qu'il fallait que je rejoigne une équipe féminine. En fait, j'avais le droit de m'entraîner avec les garçons, mais j'avais plus le droit de jouer avec les garçons. Donc, je suis allée jouer à Tours, puis à Angers, dans des équipes de filles. Je crois qu'on a été vice-championne de France avec Angers. Donc, On s'est bien marré. J'ai fini ma carrière de joueuse au Canada, à Montréal. J'étais une bonne joueuse, mais pas une excellente joueuse. Et quand je suis rentrée en France, en fait, un formateur régional de hockey, il m'a dit, mais je t'ai toujours vu arbitrer lors des entraînements ou des petits matchs amicaux. Est-ce que ça te dirait pas de continuer dans cette voie et puis de voir jusqu'où tu peux aller? Donc il a vu en moi un vrai potentiel. Et j'ai gravi les échelons comme tout le monde, peut-être un peu vite au début. J'ai été au niveau régional 6 mois. J'ai été appelée au niveau national tout de suite. Et puis un jour, un des premiers se passe quand même assez mal. J'étais pas bonne arbitre à l'époque, hein, ça devait être mon 4e match. Et en fait, ça s'est cristallisé sur mon genre, sur le fait que je sois une femme et non que je sois un mauvais arbitre. Ça a donné clairement des insultes un peu violentes. Salope, je vais te couper la tête, t'as rien à faire sur la glace, sale pute. Enfin, ouais, de certains joueurs, pas tous, une fois de plus. Mais ça s'est cristallisé là-dessus. Assez vite, à la fin de ma première année, j'ai arbitré des finales, des demi-finales cadets. Et là, un des coachs est monté sur la glace. Ça ne se fait pas du tout. Hein. Les coachs dans tous les sports ne montent pas sur le terrain. Il m'a dit « retourne faire la vaisselle et du tricot ». J'ai eu un jour un joueur sur la ligue professionnelle qui m'a mis une main aux fesses volontairement. Il a tapé sur l'épaule de son copain et il a dit « regarde, je vais faire un truc drôle ». J'ai senti la main aux fesses, je me suis retournée. Le coupable, lui, mort de rire. Quand je suis allée voir mon collègue qui, lui, avait en sa possession et l'autorité pour avoir une sanction, mettre une sanction, je lui ai dit « est-ce que tu peux le sanctionner ?» Mais non, mais c'est drôle, et c'est une main aux fesses. C'est quand même pas dramatique, et puis je suis sûre qu'il voulait rire. Donc pendant la pause, je suis allée voir le coach de ce joueur-là. Je lui ai expliqué la situation, et c'est lui qui s'est chargé de punir son joueur. Il ne l'a pas fait remonter sur la glace alors que c'était un des joueurs majeurs. Une fois qu'on a fait preuve de sa compétence, notamment sur une ligue professionnelle, ce qu'ils attendent, c'est que la décision soit juste. Donc plus on monte dans les niveaux, plus ça va, et plus ça va sur la glace. Mais moins ça va dans les vestiaires, parce que plus on est en concurrence sportive avec ses collègues. Arbitres. Oui, vraiment avec les arbitres. Et donc plus je suis montée dans les niveaux, pire ça a été, parce qu'ils avaient l'impression que je prenais la place de quelqu'un, un des leurs. Pas tous, il y a toujours le camp des bienveillants et puis le camp des sexistes. Et c'est pas forcément deux camps qui s'affrontent.
Donc c'était pas des insultes directes, rarement?
Rarement des insultes directes, parce que c'est quand même dur, les insultes directes, il y a toujours des témoins. C'était beaucoup plus insidieux, c'était quand on joue à la balle, on joue toujours à la balle avant les matchs pour s'échauffer, hors glace, même les arbitres, oui. Avec certains, c'était très sympa, même si on compte les points, enfin peu importe qui gagnait, c'était plutôt la rigolade et on savait qu'on était là pour s'échauffer. Puis avec d'autres, bah, c'était des attaques vraiment franches et directes, des ballons dans la tête, des tirs bien appuyés pour voir à quel moment je lâche. Ça pouvait être ça, ça pouvait être les collègues qui se parlent qu'entre eux et qui vous ignorent totalement. On m'a jamais demandé, très rarement, ce que je pensais d'un point de vue technique d'un match. Parce que je suis une femme et donc techniquement, j'ai pas d'avis. J'ai étoffé mon palmarès, qui est effectivement le plus gros palmarès français de l'arbitrage de hockey. Et puis, bien sûr, à l'ère de la communication, Facebook, Twitter, Instagram, bien sûr, ça se voit quand je performe. Et ça, ça agace très fort. Donc, c'est allé crescendo jusqu'à ma présélection et ma sélection pour Pyeongchang, où alors là, on en était à me demander combien de kilomètres de bite j'avais pu sucer, quoi. Toujours des arbitres. Donc j'en ai parlé à la direction sans donner nom, sans rien. La direction de l'arbitrage m'a un peu rionné. Quand j'en ai parlé à la Fédé a tout de suite pris ça à bras le corps. Il y a eu une vraie réaction fédérale en disant c'est inadmissible. Et là-dessus, la Fédé m'a mis en contact avec des journalistes. J'avais demandé si je pouvais parler de tout. On m'avait dit bien sûr que oui. Directement à Pyeongchang, devant témoins, j'ai des journalistes qui sont arrivés pour une interview et qui ils m'ont tout de suite demandé, au bout de la deuxième question, de leur expliquer les problèmes de sexisme dans l'arbitrage français. Donc voilà, c'est peut-être là mon erreur, mais quand je suis rentrée en France, là, ça a déclenché une tempête. Il y avait des arbitres qui avaient fait part de leur souhait de plus jamais arbitrer avec moi. Ils ont été exaucés. par la direction de l'arbitrage en disant OK. Entre-temps, je me suis retrouvée aux urgences avec une pneumopathie aiguë, donc out pour 15 jours. Et pendant ce temps-là, on m'a oubliée dans l'arbitrage français. Quand je suis revenue, je n'ai plus jamais arbitré un match en France. C'est-à-dire que mon dernier match arbitré, c'était aux Jeux Olympiques. C'était une finale des Jeux Olympiques. J'ai plus de mail, j'ai plus rien eu. Donc là, mon corps m'a lâché. J'ai fait une crise d'arthrose géante. Avec les médecins qui me disaient, vous étiez tellement sous stress pendant les matchs que vous n'avez pas assez sécrété d'endorphines et de je sais plus quelle hormone qui répare les tendons et les articulations. Donc effectivement, j'avais quand même pas mal de stress à chaque match dans le vestiaire. C'était pas les enjeux sportifs, hein, on parle bien du stress provoqué en dehors. Et donc début août, je suis incapable d'aller au stage national des arbitres. Là aussi, hein, je produis un certificat médical que j'envoie à la direction de l'arbitrage, dont j'ai toujours pas de nouvelles en fait. Et fin août sort la classification nationale des arbitres sur laquelle je ne suis pas. Fin septembre, j'ai la fédération internationale qui m'appelle de façon personnelle et qui me dit « Mais Charlotte, pourquoi t'as pris ta retraite ?»« J'ai pris ma retraite. »« Non, j'ai pas pris ma retraite, je suis blessée. » Non, on a un courrier de ta fédération qui dit que t'as pris ta retraite, donc on annule ta désignation internationale de l'année et ta licence internationale. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a fait 3 mois de dépression. De savoir que j'avais été rayée d'une carte sur laquelle j'avais quand même intérêt à jouer. Donc voilà, non, j'ai pas contesté. Par contre, c'est dans les mains de mon avocat maintenant. Aujourd'hui, j'ai changé de travail, j'ai changé de sport. Je suis arbitre régional et avec de l'ambition au handball. Et je suis extrêmement frustrée et meurtrie de ne pas pouvoir partager mon expérience avec les plus jeunes ou avec mes collègues français. Parce que je pense que j'ai travaillé dur, j'ai mérité la carrière que j'avais et que l'expérience ne vaut rien si elle n'est pas partagée. Et à partir de là, se dire que le hockey sur glace, c'est une croix définitive dessus, je m'en suis toujours pas remise.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Kirfala Sissoko, j'habite sur Strasbourg, j'ai 26 ans, je suis né à Guinée-Conakry. Quand j'étais en Afrique, comme tout gamin, j'aimais le football, j'aimais le sport. Et une fois, je suis allé m'inscrire dans un club de football. J'ai commencé à m'entraîner avec eux. De 8 ans jusqu'à 17 ans, j'étais impliqué dans le hockey, dans le ballon. Et en 2010, j'ai débarqué en France. Et à un moment, mon père il me demande, ouais, on m'a dit tu jouais tout, que au foot, que t'aimais bien jouer au foot. Après, il y avait un de ses copains qui connaissait un club de foot. Je me suis entraîné avec eux et je me rappelle mon premier match, il neigeait et j'ai demandé au coach si je veux mettre le bonnet pour ne pas que ma tête soit gelée. Et après, il m'a dit non, tu ne seras pas gelé et tout, t'inquiète, ça ira et tout. Après, une fois, il y avait un agent qui était venu une fois à la maison qui voulait que j'aille signer chez eux. C'était dans un club de national et mon père, il avait dit non. Il a laissé sa carte à mon père, il a dit écoute, si vous changez d'avis, vous pourrez m'appeler. Et une fois qu'il est parti, mon père il a fermé la porte, il a dit « Écoute, oublie le football, t'es là pour étudier. » Une fois ça, cela s'est passé, je suis allé m'inscrire dans un petit club de bas niveau de Détroit. Et j'ai trouvé quelques copains là-bas, on était bien, on rigolait. Et je faisais juste le foot pour le plaisir, au moins faire un sport de côté. Parce que je me suis dit « Ça sert à rien que j'aille jouer dans un bon club là où je me fais repérer. » Et après, il n'y a rien qui passe derrière. Et avec les cours, je pouvais plus suivre le rythme.
C'était quoi l'ambiance dans ce club ?
Franchement, on s'entendait tous bien. Les entraînements, on s'envoyait des petites blagues, on rigolait. Franchement, c'était bien. On gagnait des matchs et tout se passait bien. Jusqu'à le match de Mackenheim, la saison 2018-2019, le championnat des Trois. La montée, c'était déjà fini parce qu'on a mal démarré le championnat. On s'est dit, on va faire le fair play, pas prendre carton rouge jusqu'à la fin de saison. Même si on perd, on ne fait pas de bruit, on reste comme ça, on garde nos sang-froid. Et on y va à Mackenheim. C'est dans un petit village de Strasbourg. À peu près une heure de Strasbourg. On démarre le jeu, au bout de 15 minutes, les joueurs de Makenham ils commencent à me donner des coups, coups de crampon, les tacles ou les coups d'épaule. Et à un moment, il y a numéro 2 de Makenham, il monte à l'air avec son coude, il me donne un coup au niveau des côtes. Je tombe, je suis en train de crier, au lieu de me dire pardon, il vient me dire « sale nègre, on n'a pas fini avec vous ». Et il part, et moi je suis à terre, et l'arbitre il siffle rien, il laisse tomber. Le match devenait de plus en plus violent. Et je suis allé voir l'arbitre, je lui dis « écoute, quand le gardien de Makenham il est venu, il m'a donné le premier coup au niveau du visage, vous avez vu ce qu'il m'a fait, il vaut mieux qu'on arrête le match maintenant, parce que ça ne sert à rien qu'on continue. Si on continue à recevoir des coups comme ça, ça ne sert à rien qu'on continue sur le jeu. » Il me dit « non, je ferai un rapport à la fin du match. » Ok. On continue à jouer. Et on prenait toujours des coups. Il y a les supporters qui criaient « sale noire, votre place n'est pas là, allez dans la bourse, sale noire, ta place est là-bas dans la forêt. » Je disais rien, je ne répondais pas. Je me suis dit « ouais, je les ignore en fait. » Et après, le match continue jusqu'à la 43e minute. C'est là-bas tout a basculé. Il y avait un moment qui était dans la surface. C'est un joueur noir aussi de mon équipe. Et Momo, il prend la balle. Il dépasse deux joueurs. Le troisième, il le tacle, il le met à terre. Et les trois défenseurs de Makenham, il vient, il commence à donner des coups. Les deux, ils donnent des coups de crampon. Ils recevaient des coups. Et moi, j'étais dans l'autre côté de la surface. Parce que j'étais presque collé à la défense, en fait. Et je vais en courant pour tirer Momo. Et c'est là-bas que le gardien de Makenham, il vient, il commence à me donner des coups. Les joueurs, ils me donnent des coups et tout. Et je commence à courir. Et encore, je reçois des coups. Et à un moment, mon coach me dit, on va dans les vestiaires. On va en courant vers dans les vestiaires. On me barre la route. Et il y a un gars qui sort le couteau dans son sacoche. Et me dit, tu penses qu'on a fini avec vous? C'était un supporter de Makenham. Je cours, il me suit, il me poursuit, il me poursuit. Et à un moment, j'arrivais plus. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient sur moi. J'essaie de me défendre avec les mains, les pieds. On me donne des coups de crampon, les coups au niveau des côtes, au niveau du visage, jusqu'à ce que j'ai perdu connaissance. Je me suis dit, c'était mort. J'ai juste la réflexion, j'ai dit, je vais mourir sans dire au revoir à ma famille. Ils vont juste entendre que je suis mort, je suis allé jouer au foot. C'était la secrétaire de mon club qui a appelé les pompiers, les gendarmes. Et après, quand je commence à me lever petit à petit dans l'ambulance, et j'étais encore sur l'effet de choc, en fait. J'étais pas de moi-même, en fait. Jusqu'à minuit, une heure du matin, comme ça, il y a mon coach qui vient me voir à l'hôpital. Après, pour me faire rire, en fait, il m'a fait, franchement, le match était bien, t'as bien joué, t'as bien reçu des coups. Il me dit, il y a juste un truc à te dire, tu sais que t'as un carton rouge. J'ai dit, l'arbitre, il m'a donné un carton rouge. Il me dit, oui, au moment que t'étais à terre, que les autres, ils entendent de te tuer. Que parce que j'ai essayé de me défendre. On allait, on a déposé les plaintes, après on est rentré et moi le soir encore je suis allé à l'hôpital pour aller prendre mes médicaments. J'avais eu triple fracture au niveau du visage, j'avais la mâchoire qui était déplacée, j'avais la fracture au niveau juste de l'arcade, j'avais triple fracture et j'avais mal au niveau des côtes. Et j'ai mis au moins un mois sans pouvoir manger, j'ai eu traumatisme crânien. Il y a le sang qui sortait partout dans mon nez pendant deux semaines. Des fois, je me levais 2h du matin, 3h sans dormir. Je faisais des cauchemars de cette scène, en fait. Ça me revenait dans la tête que je tombe au sol, que je pensais que j'étais mort. Je voyais les gens crier autour de moi. Ils disaient, c'est fini, il est mort, il est mort. Des fois, je me levais en courant, tout seul dans la maison. Je restais sur ça jusqu'à le matin. Et quand j'ai porté plainte, on était convoqué à la Ligue. Faut passer au conseil de discipline. Quand je suis venu au conseil de discipline, ils ont dit chacun va expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais ils me coupaient la parole, ils ne voulaient pas que je parle. Et après, les sanctions sont tombées, j'ai pris 10 matchs de suspension. Ils m'ont pris comme si c'était moi le fautif, en fait.
Est-ce que vous avez essayé une poursuite en justice?
Oui, l'enquête il est toujours en cours parce que je me suis porté au parti civil. J'attends toujours la fin de l'enquête. J'aimerais juste que ça soit reconnu que pendant toute cette période, tout ce que j'ai expliqué, tout ce que j'ai dit, que c'est pas des mensonges. En fait, je me bats pas pour me faire voir. je me bats aussi pour que dans le foot amateur, on ne voit pas la télé. On ne voit pas ce qui se passe. C'est plus grave que dans le monde professionnel. C'est plus violent que le foot professionnel. Il y a plus de racisme que dans le foot professionnel. Après l'accident, je me suis retourné sur un terrain de foot. Et je voyais que ça ne se passait pas comme je voulais. Mon corps ne répondait plus, mon cerveau. J'étais plus concentré en dehors du terrain que sur le terrain. Je me disais, ouais, il n'y a pas quelqu'un qui est venu avec couteau, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'agresser. Il n'y avait plus le plaisir que j'avais avant. Et donc, du coup, j'ai dit, ouais, là, j'arrête. J'ai dit stop. J'ai mis les crampons dans le sac, je l'ai mis dans la cave. Je ne pouvais plus revenir, je ne pouvais plus jouer. Le football, c'est fini.
Je m'appelle Brahim Naït Balk. Je suis français d'origine marocaine. Je suis né à Saint-Étienne dans la Loire. Mon père était mineur de fond, ma mère femme au foyer. Je fais partie d'une famille de 8 enfants. Je vivais dans une cité qui s'appelle la Chana, une cité minière. Le foot à l'époque, c'était pas mon truc en fait, mais j'étais contraint de le faire parce que tout le monde pratiquait le football. En bas de la cité, dans les cités en règle générale, j'avais ce côté un peu sensible. À l'époque, peut-être un côté efféminé. Par exemple, ça m'arrivait quand je tombais, j'étais un des premiers à retirer un peu toute la boue sur mon maillot et mon short et mes chaussettes. J'entends encore ces mots qui résonnent, la femmelette, le PD. Déjà depuis tout jeune, tu joues comme une fillette. Plus j'avançais un peu dans l'âge, et plus je m'isolais de plus en plus. J'avais pas envie d'aller aux entraînements, j'avais pas envie d'aller jouer au foot avec mes frères et les autres. J'avais même pas envie d'aller à l'école parce que j'étais trop différent des autres et j'étais pas comme eux. J'ai vécu à Saint-Étienne jusqu'à l'âge de 14-15 ans avec toute ma famille. Ensuite, mon père l'est muté dans une autre ville minière, à Mont-Solimine. Et je continuais la pratique football parce que j'avais mes frères qui étaient passionnés de foot et parce que même comme à Saint-Étienne, à Mont-Solimine, dans ce village, il y avait le foot qui se pratiquait en fait. Je me disais, mais Brahim, tu es quelqu'un qui n'est pas normal. Comment tu peux expliquer que tu as une sensibilité pour les garçons, que tu peux même tomber amoureux des garçons, alors que tous ceux qui t'entourent, avec qui tu es à l'école et au foot, ont une préférence pour les filles. Et moi, j'étais en marge de tout ça. Il a fallu que je quitte mes parents pour rejoindre Paris. À l'époque, j'avais un frère qui était étudiant, qui m'avait fait venir. On est allé rejoindre donc Aulnay-sous-Bois, la zone industrielle. Donc ce sont les grandes barres un peu qui dominent un peu partout. Hein. Le foot, bien sûr, il était plus dominant qu'ailleurs. Hein. Il n'y avait que du foot. Les gens passaient leur temps et leur vie à jouer au football. Donc je me suis retrouvé dans cette cité à jouer au football en permanence. On passait notre temps les soirs, les week-ends à jouer au foot. Là, par contre, on m'avait vraiment repéré. Hein. Mon côté un peu efféminé, mon côté un peu différent des autres, tout de suite, on m'avait capté. Et je me souviendrai toujours, on osait même un peu me faire des espèces de tapes aux fesses pour me dire « joue comme tu dois quelque part ». Et un soir, dans la cité, en rentrant dans cette cité des 3000, j'étais tombé nez à nez près d'un groupe de 5-6 personnes. Je reconnaissais les visages que j'avais croisés au foot lorsqu'on partageait des parties de foot en bas de la cité. Et quand je me suis fait interpeller, ces types un peu durs avec la voix assez macho et rock qui me disaient « Mais tu t'es regardé ? Comme tu joues au foot ? Mais comme un PD, mais tu t'es regardé ? Dis-nous que tu es PD, dis-nous que tu es PD. Tu vas nous le montrer maintenant que tu es PD. » Ils m'ont conduit dans une cave. Dis-nous-le que t'es PD, dis-nous-le, tu vas nous le montrer maintenant. Et là, on m'a rabaissé et on m'a fait faire des fellations. Des fellations. Et là, je me sentais sale. Tout était tourbillon dans ma tête et c'est terrible parce que finalement, je me suis laissé faire et je voulais qu'ils fassent ce qu'ils avaient envie, qu'ils me laissent partir surtout en fait. Et ils ont fini par me libérer et me lâcher. Et là, je suis rentré chez moi en pleurs. Et encore, fellation, c'est rien. Mais pendant plusieurs années, il y avait les fellations, mais il y avait aussi la violence sexuelle jusqu'au viol. Je subissais en fait des tournantes qu'à l'époque subissaient des filles. J'avais peur que je ne sois pas reconnu et accepté par mes frères et sœurs, donc je me suis tu. Et j'ai continué comme ça, jusqu'au jour où je me suis échappé de cette cité. Je me suis dit, il fallait que je me prenne en main, et que le foot, même si tous les joueurs de l'époque ne m'ont pas accepté comme il fallait, j'avais envie de montrer que j'avais des capacités. Donc j'ai passé des petites formations d'initiateurs pour entraîner au football. Et je me suis inscrit dans des équipes de foot traditionnelles, hein, à Issy-les-Moulineaux, à Sèvres, dans le 16e arrondissement à Paris, où j'ai fini par être entraîneur. Dans ces équipes traditionnelles, quand j'entraînais au foot et autres, je faisais toujours en sorte qu'on me découvre pas et qu'on sache réellement qui je suis en fait. Et ça a duré aussi pendant au moins 20 ans. Mais après, j'avais envie de quitter ces clubs-là parce que je voulais vivre normalement et vivre comme tous les autres, vivre cette passion, parce que le football a fini par être une passion, parce qu'elle m'aidait aussi à m'émanciper comme il fallait. Donc j'ai fini par entraîner le Paris Foot Gay. Pour moi, c'était le début de la construction, pour moi, vraiment. Le temps est passé. Un entraîneur d'une équipe senior de Sèvres m'avait proposé qu'on vienne faire une rencontre chez eux. Et même un des entraîneurs me dit « Mais Brahim, on a toujours su qui tu étais. » Et c'est là où je me dis « Mais c'est con quand même. » J'aurais réussi à l'époque à m'assumer comme il fallait. J'aurais peut-être pas perdu le temps que j'avais perdu en vivant dans le silence quelque part.
C'était Discrimination dans le sport, un reportage de Karine Leloit réalisé par Yael Mandelbaum. Merci à Charlotte Girard, à Kerfala Sissoko et à Brahim Netbalk. Merci également à Léa Fey, à Aya Sissoko, à Béatrice Barbus, à Marion Poitvin, au Club des Dégommeuses, à l'USRO Rugby Féminin et à la Fédération Sportive Gay et Lesbienne. C'est Camille Richir qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre toute cette semaine.